Capital sur Radio Rancial. Bonjour à tous les auditeurs. Au micro, Elisabeth Couget.
Et Christine Afota. Bonjour, Elisabeth. Quelle est la capitale que nous allons visiter aujourd'hui?
Eh bien, bonjour, Christine. Nous allons prendre la direction de la capitale bulgare, Sofia.
Voilà une ville dont nous connaissons peu de choses, tout comme de sa population et de la Bulgarie, tout simplement.
Alors, on peut déjà dire que le peuple bulgare est accueillant, ayant une culture très ancienne. Le pays sans prétention est fier de ses plages infinies, du bord de la mer Noire, aux eaux de couleur émeraude. C'est le pays où la mer et la montagne se rencontrent. Ces hautes montagnes arrivent jusqu'au sommet splendide qui entoure des vallées larges, des lacs et des rivières riches en poissons. Donc, la Bulgarie possède une flore et la faune assez variées. Rares sont d'ailleurs les pays où, sur une surface aussi réduite, il y a tant de beauté réunie et de passé historique aussi.
Eh bien, voilà une jolie description du pays, dont aujourd'hui nous allons découvrir la capitale, Sofia, qui se trouve à environ 550 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer.
Ce qui n'exclut pas que les montagnes qui l'entourent, par contre, rendent la ville plus intéressante.
Et tu vas nous donner, Elisabeth, peut-être quelques données historiques.
Alors, on trouve des traces des premiers habitants ici, 600 ans avant notre ère. Les légions romaines ont envahi le territoire peu de temps avant Jésus, si on peut dire. C'est l'empereur Trajan qui donne le premier nom à cette ville et il l'a appelée Ulpia Serditsa. Et la Serditsa était le nom des habitants thraces de cette région.
Et le nom Ulpia, d'où vient-il ?
Du nom de l'empereur Trajan, parce que son nom était en réalité Marcus Ulpius Traianus. Donc, c'est pour ça. Au gré des invasions, le nom Ulpius disparaîtra. Et je vais parler de ces envahisseurs byzantins, les Huns, d'Attila, les autres Goths, qui jusqu'au 8e siècle de notre ère passaient par la Bulgarie.
Et c'est à ce moment-là que les Bulgares s'y s'installent.
Mais le danger byzantin reste présent et assez longtemps encore. D'ailleurs, la ville ne s'appelait Sofia qu'à compter du XIVe siècle.
Et pourquoi ce nom, Sofia ?
Ça vient de l'église Sainte Sofia que la population vénérait. Peu de temps après, le pays et sa capitale sont occupés par les Turcs. Donc, ils avaient très peu de temps le nom de Sofia avant que les Turcs n'arrivent, en 1382. Sofia n'est plus une ville chrétienne. Et une grande partie des églises de la ville sont transformées en un lieu de culte musulman. Avant toute chose, il le restera durant 500 ans, au bout desquels l'armée russe va éliminer la présence turque en l'année 1879. La ville, une fois libre, perdra son aspect turc très vite, en partie. Ce qui en restera va disparaître presque intégralement quelque temps après. Et la totalité sera gommée au cours des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale.
En quelques mots, que peut-on dire de la ville de Sofia aujourd'hui ?
Elle est la plus grande et la plus industrieuse du pays, où 1 500 000 personnes vivent, ce qui en fait le centre politique et culturel de la Bulgarie.
Elle est de quelle taille ? Et est-ce que tu peux nous dire quel temps il y fait ?
Alors, Sofia s'étale sur 70 km de longueur et de 15 km de largeur. Quant au temps dont profitent ses habitants ou les touristes qui s'y rendent, il est plutôt agréable, surtout durant les mois d'été. Et signalons son été indien fameux, car c'est exceptionnellement long puisqu'il peut durer 2 mois environ. La neige est présente en hiver et la population de la capitale a de la chance, car les amoureux du ski n'ont qu'à monter sur le mont Vitocha, dans la partie sud de la ville, où l'enneigement est assuré durant de très très longs mois. En contrebas dans la capitale, le printemps est plutôt précoce, quoique le mois le plus agréable n'arrive qu'au mois de mai.
Donc, pour découvrir la capitale bulgare, il est recommandé de profiter de la fin du printemps. Et pourquoi pas dès cette année ou l'année prochaine ?
Ben oui, pourquoi pas. Mais avant d'envisager ce voyage dont nous allons vous suggérer les parties les plus intéressantes, écoutons un peu de musique bulgare, bien sûr. Après ces quelques notes de musique bulgare et la courte leçon d'histoire qui l'a précédée, commençons la découverte de Sofia dans notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel. La taille de la ville de Sofia aujourd'hui est bien plus considérable qu'à l'époque byzantine ou durant les 5 siècles d'occupation ottomane. Mais la partie la plus intéressante n'occupe qu'un petit périmètre mais bien rempli de monuments à découvrir.
Quel est donc l'endroit d'où nous devrions commencer notre promenade dans la capitale bulgare ?
Ce qui est préférable sera de partir depuis la place principale de la ville. C'est la place de l'Indépendance, car c'est dans ses environs que sont rassemblés les sites les plus iconiques, les plus célèbres de Sofia. De plus, c'est par cette place que passent toutes les routes arrivant dans la capitale, venant finalement de n'importe quelle direction. Et c'est ici, et c'est de cet endroit-là, que part l'unique ligne de métro de la ville. À la période communiste, la place portait le nom de
Lénine.
Et oui, ensuite celui du premier secrétaire du Parti communiste de Bulgarie, qui était
Dimitrov.
Voilà. Et le centre de la place était orné jusqu'en 2002 par une statue imposante de Lénine, toujours Vladimir Ilitch Lénine.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on y trouve celle de Sainte-Sophia.
Quand on observe cette place, est-ce que le passé finalement assez lointain quand même paraît évident ou non ?
Non, pas vraiment. Pourtant, c'est bien ici même que se trouvait la ville originelle. Il y a déjà vraiment très, très, aussi loin qu'on peut repenser et que la Sofia d'aujourd'hui s'est formée autour de cette place qui, de tous les temps, était le centre de la cité. Le centre-ville de Sofia est marqué par les constructions typiques du style réaliste-socialisme, construites après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qui ont remplacé les petites maisons centenaires de l'époque turque, qui ont été détruites entre janvier et mars 1944. Grâce à la construction de ces bâtiments nouveaux, le passé de Sofia est apparu et l'existence de la ville de Serdita d'il y a 3000 ans n'avait plus aucun doute dorénavant. Bien sûr, les nombreux magasins, restaurants et de cafés où le café turc nous attend n'a vraiment rien à voir avec le passé de la capitale bulgare qui entoure la place.
Quel est le monument le plus important de cette place ?
Alors, je pense que cela doit être l'église Sveta Petka, qui fait face à la statue de Sainte-Sophia maintenant. Étonnamment, elle est toute enfoncée dans la terre et se trouve bien plus bas que le niveau du sol de la place.
Il y a une raison à cela, ou peut-être que la cause, c'est le rehaussement de la place à une époque, non ?
Non, non, ce n'est pas cela. L'église qui se trouve donc aujourd'hui comme enfoncée dans la terre, et même plus bas que les rues voisines, c'est ainsi tout simplement à cause des Turcs qui n'autorisaient la construction des églises que contre argent sonnant. Mais il fallait encore que l'église construite ne dépasse pas la hauteur d'un homme.
Donc, il ne restait qu'à les construire enfoncées dans la terre. Un peu comme des maisons à étage, mais à l'envers, si je puis dire.
Oui, exactement. C'est une maison à étage renversée. Alors, tout à fait, Sveta Petka est la troisième église construite à ce même endroit, sachant que la première datait de l'époque de Constantin. Alors, il y a encore une chose que je voulais dire à propos de Sveta Petka. Cela veut dire « Vendredi Saint ». Cette église du XIVe siècle, vue d'extérieur, n'a vraiment rien d'exceptionnel. Mais par ailleurs, elle est tout à fait intéressante. Surtout, son niveau le plus bas, ou même son passé romain, apparaît dans toute sa splendeur. Et en avançant dans ses profondeurs, on découvre des trésors que cette église surprenante a caché des siècles passés à tous les visiteurs qui s'y trouvent. À l'autre bout de la place, un grand hôtel de luxe attend les voyageurs. Et tout comme le grand magasin central nommé Koum. Donc, enfin,
c'est un pas peu comme le Goum de Saint-Pétersbourg.
Le Goum de Saint-Pétersbourg, oui, c'est ça. En 1957, au moment de sa construction, le magasin Koum paraissait très moderne. Surtout à côté du mosquée Banya Bazi, et de l'unique lieu de culte turc qui a survécu au sacre russe en 1888, lorsque, après la libération de la ville, ses libérateurs en ont détruit en quelques jours plus de la moitié. Le reste des souvenirs turcs, si on peut les appeler ainsi, n'ont pas vraiment résisté à un deuxième sacre des Russes quelques années plus tard.
Et c'est bien pour cela que les 500 ans de domination turque n'ont laissé finalement que peu de choses. Au fait, la mosquée qui existe toujours, la Banya Bassi, date de quelle période ?
De 1573, construit par le très célèbre architecte Minar Sinan, qui en 40 ans a construit à travers l'empire de Soliman le Magnifique environ 400 très très belles constructions.
C'est énorme.
Oui.
Et malheureusement, en Bulgarie, les libérateurs russes n'ont pas vraiment respecté ces constructions magnifiques, privant ainsi ce pays d'un patrimoine intéressant et de quelques beaux bâtiments.
Et oui. Sais-tu, Christine, qu'en bulgare, Banya veut dire bain, comme en russe, bon, comme tu connais un peu le russe. Oui. Et cela a une explication juste à côté de la mosquée. Il y a une source thermale qui était découverte et connue jusqu'à l'époque romaine. Cette source attire de nombreux malades souffrant des problèmes digestifs et le bain qui a été créé était très utilisé à la période turque où d'ailleurs c'est ici que la ville était la plus animée. Non loin de là, on aperçoit la plus grande synagogue de la presqu'île balkanique construite en 1909 en un style maure qui fonctionne toujours. Alors, il faut savoir que les Juifs de Bulgarie ont eu bien plus de chance que leurs co-religionnaires du reste de l'Europe et n'ont pas terminé dans les camps de concentration, heureusement pour eux. Après la Seconde Guerre mondiale, plus de 50 000 Juifs vivaient encore toujours en Bulgarie en paix. Je ne quitte pas encore cette place principale tellement grande car il reste encore un monument à ne vraiment pas rater, il faut le signaler, c'est la cathédrale Sainte-Nedelie de style byzantin qui a aussi une longue histoire de construction et de destruction successive suivant les nombreuses invasions et de catastrophes naturelles depuis la lointaine époque de l'empereur Constantin jusqu'à nos jours.
C'est une ville qui, malgré les longs siècles d'occupation ottomane, était tout de même très religieuse et je suppose qu'à part cette cathédrale dont tu viens de parler, il doit y avoir de nombreuses autres églises, bien sûr. On ne pourrait certainement pas parler de toutes, mais peut-être les plus intéressantes.
Et parmi celles-là, il y a la plus ancienne de la ville, l'église Saint-Georges. Alors, du début du IVe siècle, à l'origine, il s'agissait d'une bastion construite par les Romains en vue de protéger la ville, d'où sa forme arrondie d'ailleurs. Les invasions ont fait des dégâts, mais l'église est toujours là, quoique entre-temps, ce bastion, devenu donc un lieu de culte pour les chrétiens, fut transformé en mosquée et redevenu église de nouveau il y a environ 150 ans.
Et comment est l'intérieur de cette église Saint-Georges ?
Bien, il cache, ou si on peut dire, quelques jolies fresques qui ont été occultées durant 5 siècles grâce à la peinture et beaucoup d'autres choses encore qui sont à découvrir là-dedans. Ce qui est étonnant à Sofia, que les 500 ans d'occupation turque, quoique n'étant plus vraiment visible, est pourtant toujours là et tôt ou tard, on la retrouve partout. Après cette courte interruption musicale, continuons la visite de Sofia dans notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel. Sofia n'est pas Sofia sans la montagne Vitocha, qui borde la capitale bulgare. L'avenue portant le même nom, qui se dirige vers la montagne, nous présente un bon nombre de beaux bâtiments publics. À commencer par le palais de justice, par exemple. Mais il n'y a pas que ces palais baroques qui rendent cette avenue si plaisante. Il y a les boutiques, des restaurants et des cafés qui en font aussi un endroit très très vivant.
Et comme nous nous en sommes rendus compte, déjà le passé turc, malgré sa durée exceptionnellement longue, a pratiquement disparu de cette ville, peut-être.
Mais oui. La population voulait l'oublier. Et les libérateurs russes voulaient en faire table rase. Mais des bâtiments sont restés quand même, comme une partie de la plus grande mosquée du pays qui est devenue le musée ethnographique aujourd'hui, après avoir été d'ailleurs hôpital militaire, puis bibliothèque nationale. Mais je pourrais parler aussi de la Banque nationale qui est à côté d'une autre mosquée, une ex-mosquée, et à la place des anciens bâtiments de l'administration turque. Alors vous voyez finalement le passé ottoman est partout présent quand même dans la ville. On le retrouve.
Elisabeth, tu connais la Bulgarie et tu t'es rendue sûrement à Sofia.
Oui, j'y suis allée une fois il y a très longtemps. J'ai eu l'occasion d'y côtoyer des Bulgares dans leur quotidien et je me suis rendue compte que le passé turc se cache aussi chez eux. dans leur maison ainsi que dans leur manière de vivre en famille et de la puissance de la mère de famille avec son autorité prépondérante, comme en général chez les Turcs. 150 ans depuis leur départ n'étaient pas assez pour effacer les 500 ans et l'empreinte qu'ils ont laissée derrière eux.
C'est assez étonnant. Et quels sont les autres bâtiments qui pourraient intéresser les visiteurs aujourd'hui ?
Il y a l'ancien palais du Tsar, qui existait déjà d'ailleurs, parce que c'était le palais du Tsar bulgare, qui existait déjà avant l'arrivée des Turcs. Et après, c'est le gouverneur de la Sublime Porte qui s'y logeait. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Galerie nationale s'y est installée avec ses milliers de statues, de sculptures, de tableaux qui attirent de nombreux visiteurs. Et c'est le même intérêt qu'entoure le musée ethnographique également, dont on a parlé il y a un instant. Et ceux-là ne sont pas les seuls musées intéressants de la ville, croyez-moi.
Et la célèbre église russe, dont j'ai lu qu'elle méritait aussi une visite. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'appelle église russe ?
Oui, bon, élémentaire, ce sont les Russes qui l'ont construite dès 1885, donc 6 ans après la libération. L'église russe voulait que... Les Russes voulaient en fait que l'orthodoxie bulgare dépende du patriarcat russe, après son redéploiement suivant la libération du pays. Cette église russe de Sofia est dédiée à Saint-Nicolas, qui a pris la place d'une énième mosquée détruite par les libérateurs russes. Saint-Nicolas est orné par tout ce qui doit se trouver dans une église russe. Il y a des fresques, des icônes,
bien sûr,
des mosaïques, des dorures, des majoliques, etc.
Je crois que l'on peut dire qu'à Sofia, le nombre des églises prouve que 500 ans d'occupation islamique n'ont pas tué le christianisme, bien au contraire.
Ah oui, alors pour aller dans ce sens-là, Christine, je vais encore indiquer deux autres sites orthodoxes intéressants. Il y a l'église de Sainte-Sophia, qui occupe la place du cimetière des Romains, que deux autres églises précédaient déjà à cet endroit-là et qui ont été détruites par les invasions. Et la seconde église dont
tu voulais parler, c'est laquelle alors ?
Oui, la seconde, c'est la dernière d'ailleurs en même temps. Elle est la plus imposante, c'est la cathédrale Alexandre Nevski, qui a été construite par les Bulgares eux-mêmes il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en remerciement aux Russes pour leur sacrifice. Car il y a eu, lors de la libération, plus de 200 000 soldats russes tués. Quant au nom de la cathédrale Alexandre Nevski, prince de Novgorod, c'était vraiment un héros russe qui a battu les envahisseurs suédois en 1940. La bataille se passait au bord de la Neva et c'est tout un symbole.
Et le nom Nevski vient de la rivière Neva, lieu de la victoire.
Il y a aussi de beaux bâtiments universitaires, celui de l'Académie des sciences aussi, l'Assemblée nationale, la grande bibliothèque du pays, l'Opéra, le Théâtre national, etc.
On peut vraiment dire que Sofia est une ville riche en passé, en histoire, en musées, en églises, en très jolis bâtiments qui tous témoignent d'un passé et d'un présent culturel important. Et pour terminer notre visite de Sofia, si tu nous parlais, Elisabeth, un peu de la Vitocha, le poumon vert de la ville et des environs.
Alors, la Vitocha culmine à 2300 mètres. Elle est couverte de neige 6 à 7 mois par an, où les habitants de la capitale bulgare peuvent s'adonner à la joie des sports d'hiver, à deux pas de leur domicile, où l'on monte en télécabine à peine 20 minutes.
Mais quelle ville de rêve !
Tout à fait.
Et à part la neige et la belle végétation, que voit-on dans cette région de Vitocha ?
Oui, entre autres, il y a une très jolie cloître ou monastère, Dragolevti, qui nous y attend, dans un endroit caché, un peu perdu, et depuis 1350, l'année de sa construction. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce qu'on peut savoir rapidement de cette ville, qui dorénavant ne vous serait peut-être pas si inconnue que ça.
Merci Elisabeth de nous avoir fait découvrir cette jolie capitale de Bulgarie, avec un autre monde en fait assez différent du nôtre, mais que l'on sent aussi très proche pourtant.
Voilà, merci de nous avoir suivis sur Radio Grand Ciel, à bientôt.
À bientôt.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.